Médoc. Des portraits sonores, des reportages inouïs. Les grands crus de la création documentaire de Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.
Un mercredi sur deux à 18h sur le 93.9 FM.
Bonjour, je m'appelle Max Latarget, j'ai 22 ans, je suis élève au CR de Paris et je suis jeune chanteur étudiant.
Je m'appelle Ambroise Divaret, je fais le rôle du chat et de l'horloge dans L'Enfant et les Sortilèges.
Donc je m'appelle Camille, je fais la princesse dans L'Enfant et les Sortilèges et la chatte et aussi une bergère.
Alors je suis Juliette Noyetas, je fais la bergère et l'écureuil dans L'Enfant.
Et moi, je suis Célestin Grand et je joue la maman, la tasse chinoise et la libellule.
Je m'appelle Antonine, je fais le rôle de l'enfant.
C'est le chat. Sinon, j'ai l'horloge aussi. Ding, ding, ding et encore ding.
Oui, c'est elle, ta princesse enchantée.
Votre servante fauteuil.
Bébé a été sage.
J'ai pas envie de faire ma page.
J'ai envie d'aller me promener.
J'ai envie de manger tous les gâteaux.
Le pitch, il est plutôt simple. C'est un gosse, c'est un sale gosse. Il veut pas faire ses devoirs, il a envie de sortir, aller prendre l'air. Sa maman arrive, elle voit qu'il a pas fait ses devoirs, elle l'engueule. Il est pas content et il casse tout dans sa maison. Et à partir de ce moment-là, tous les objets ils prennent vie et viennent le hanter. Et en fait, c'est un peu le voyage initiatique d'un enfant qui grandit et qui apprend que ses actions ont des conséquences. En gros.
Bébé a été sage.
Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce spectacle, parce que j'avais grandi avec. J'ai eu envie d'être la princesse, d'être le feu, d'avoir moi aussi cette voix suraiguë et des vocalises. Moi, comme c'est comme ça que j'ai découvert la musique classique, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas toucher plein d'enfants aussi de cette même manière-là ? Pauline, je l'ai rencontrée, et puis on a beaucoup parlé tous les deux. Elle aimait bien cette œuvre, mais elle n'était pas spécialement inspirée. Elle trouvait que c'était plutôt mal écrit, plutôt mal fait. Et du coup, ça a été un peu la convaincre de faire ce spectacle, quoi, et comment mettre en scène.
Donc, je suis Pauline Joly, je suis la metteur en scène de ce projet que j'ai co-réalisé avec Max et la compagnie Ginette. À la base, c'est pas une œuvre qui me plaît énormément, pour différentes raisons, principalement pour la raison qui est que c'est une œuvre assez bancale d'un point de vue dramaturgique, à mon sens. C'est pas une œuvre qui était tout à fait scénique. C'est très étonnant comme construction, c'est très saccadé, et moi je trouvais ça un peu bancal. La chose en revanche que je mets en avant et que j'aime beaucoup, c'est que c'est une œuvre dans laquelle il n'y a pas de rôle principal. Alors évidemment, il y a l'enfant, c'est éponyme, etc. Mais l'enfant, finalement, en termes de musique, il chante pas particulièrement plus que les autres. C'est un fil rouge, mais il n'y a pas de rôle principal. Il n'y a pas la diva et les seconds plans. Il y a vraiment tout le monde sur un pied d'égalité. Et ça me plaît énormément. Et je me suis dit, on va plutôt jouer sur cette idée de groupe et de petite compagnie. Et puis je les voyais, je me disais, des enfants des enfants et leur imaginaire, quoi. C'est-à-dire un groupe d'enfants qui s'amusent et qui tombent sur une panière de costumes et qui, ou même des objets du quotidien et les transforment pour en faire leurs plus grandes aventures et des rêveries sans fin. Il y a un reste d'enfance chez eux qui est assez naturel parce que, de toute façon, ce sont des jeunes chanteurs. Ils passent leur vie à se travestir, à se mettre dans la peau d'un personnage. Et pour moi, c'est toute l'essence de cette œuvre.
L'idée, moi, j'avais pas envie de symboliser un objet par un objet. C'était ma condition de, quand en effet, un fauteuil n'était pas un fauteuil, une bergère n'était pas une bergère, et qu'en fait, il fallait trouver une sorte de fil conducteur ou comment, en fait, ça allait être tous des enfants qui allaient jouer et à s'amuser comme s'ils étaient dans un grenier et qui découvraient des costumes et qu'avec des trucs du quotidien, ils allaient devenir des personnages, quoi. Il y a une maison au milieu, mais en fait, tout autour, il y a une sorte de off, comme s'ils allaient pouvoir circuler et pouvoir s'habiller devant tout le monde, se maquiller devant tout le monde, se changer. Et c'était aussi comment on faisait un spectacle, quoi.
C'est tellement difficile à mettre en scène dans la mesure où il y a vraiment, ça demande beaucoup de costumes si on veut être très littéral. C'est-à-dire que les personnages sont des objets du quotidien, par exemple une tasse, ou une grenouille, un écureuil, une horloge. La plupart des mises en scène que j'ai vues, souvent, c'est très littéral. Et donc, on a en face de nous, effectivement, une vraie horloge qui parle, qui chante même, une tasse. Or, nous, on s'est plutôt dit qu'est-ce que ça nous évoque, quelles sont les inspirations d'un enfant et son imaginaire, il va... vers les choses qu'il voit quotidiennement, c'est-à-dire un enfant, pour le meilleur et pour le pire, ça regarde la télévision, ça lit des livres, ça encore heureusement, ça voit des choses. Et donc en fait, son imaginaire, il se colle forcément aux inspirations, à son univers, quoi, à ce qui l'entoure réellement. Donc nous, on s'est plutôt dit, qu'est-ce que ça nous inspire ça? Qu'est-ce que ça nous inspire ça? Le duo des chats, par exemple, nous, ça nous inspirait la scène finale de Grise. Parce que c'est un peu ce duo des chats, il est étonnant parce que c'est un peu un duo de séduction. Et on va volontiers vers ce genre d'inspiration parce que c'est notre œil d'aujourd'hui, de notre génération. Et ça, c'est chouette. L'œuvre, nous, on l'a voulu intemporelle, si ce n'est qu'elle est pleine d'inspirations qui sont les nôtres.
Personnage, c'est l'enfant. C'est un petit enfant qui se met en colère, qui découvre un peu aussi en même temps par cette colère tous les aspects de la vie, du monde qui l'entoure. C'est l'enfant qui réunit un peu tous les personnages qui sont dans ce spectacle. Et voilà, c'est un peu le trait d'union entre tous ces personnages. Tous les rôles sont des sortilèges, c'est des sortes d'inventions. Des fois, c'est des objets qui s'animent, comme pour Juliette.
Dans le cas de la bergère, qui est une sorte de fauteuil. Dans l'autre, je suis un animal, un écureuil blessé. Donc, un écureuil assez arrogant, mais aussi profond et peiné. Disons que c'est un personnage assez ambivalent. Tandis que la bergère est plus simple.
elle est plus légère, je dirais.
Il y a vraiment deux sortes de personnages. Dans la première partie de l'opéra, c'est beaucoup plus surnaturel. Et dans la deuxième partie, on est dehors. Et donc, c'est des personnages, des animaux blessés ou la nature. Il y a juste le personnage de la maman qui introduit l'opéra et qui va déclencher la colère de l'enfant. Et donc, tous les sortilèges et tout ce petit spectacle que l'enfant met en scène avec tous les objets blessés. Ensuite, je reviens en tasse chinoise. Et là, c'est le combat entre la tasse et la théière. Et il y a un côté un peu, toujours un peu faux et un peu drôle. On est une fausse tasse chinoise, une fausse théière. Enfin, et on utilise des accents. Et en fait, c'est pas que c'est pas du français. En fait, c'est du français, mais avec un espèce d'écriture. Keng sa fu ma jong. Bon, ça, c'est un truc inventé. Et ensuite, je dis ça aura l'air chinois. Mais c'est écrit, même, c'est écrit chinois. Enfin, c'est pas. C'est vraiment un peu pour se moquer du faux et tout ça. Bon.
J'incarne deux vocalités vraiment différentes. La bergère a une étendue bien plus grande que l'écureuil. Et encore une fois, ici, en tout cas dans la ligne vocale, ce qui n'est pas du tout mis en avant, c'est un certain lyrisme. On est beaucoup plus sur quelque chose de parlé. Il peut même y avoir un petit ton un peu aigre, un peu piquant, parce qu'ils sont dans la satire. Tandis que dans l'écureuil, il y a vraiment une âme. La ligne musicale est beaucoup plus simple, beaucoup plus étirée.
Les rôles que je fais sont des rôles entre ténor et baryton. Ça monte jusqu'au, si je ne dis pas de bêtises, au sol. Et ça descend jusqu'au dos. Donc pour quelqu'un qui est ténor comme moi, ce n'est pas forcément évident à appréhender parce qu'il faut, il faut les faire bien. Et puis techniquement, par exemple, le rôle du chat, on fait miaou. Et c'est marqué très très nasal pour imiter un miaulement de chat. Il faut réussir à adapter les personnages, les différents personnages vocalement comme scéniquement.
Moi, je joue les trois personnages les plus graves de l'opéra. Et du coup, la maman, c'est vraiment une contralto, souvent. C'est très grave. Je pense que ça incarne bien le personnage de la maman parce que c'est un personnage sévère. Et ensuite, la tasse, c'est peut-être le moins grave des rôles que je chante. Elle a un côté aussi très assuré. Elle va gagner le combat, donc il y a un côté aussi très très chaud et puis posé, profond. Elle est pas excitée, elle a des phrases très longues et tout ça. Et
moi, je me suis beaucoup inspirée d'enfants que j'ai vus ou de ce que j'ai ressenti petite. Mais il y a aussi cette dimension jeu. L'enfant joue lui-même à être un enfant. L'enfant joue la colère. Il joue à un moment donné à une sorte de monsieur loyal. Donc il y a aussi ce côté. Une couche supplémentaire, en fait, c'est un enfant, mais il joue aussi, comme les autres, en fait, qui joue au chat, qui joue à l'horloge. J'essaie au maximum d'avoir une voix qui se rapproche de celle d'un enfant sans non plus que ça fasse enfantin, parce que c'est un opéra, et il faut que techniquement ce soit propre, mais c'est beaucoup par le texte aussi, les façons de dire, de rythmer.
Il faut vraiment se mettre dans un personnage, et en plus, tu joues l'enfant qui a envie de se mettre dans un personnage. Il y a une sorte de double incarnation, à la fois on est les personnages, la bergère, le fauteuil et tout ça, mais on est surtout ces enfants-là qui veulent jouer les personnages.
Je crois qu'aussi que l'enfant, il est toujours sérieux quand il incarne, même s'il ne se prend pas au sérieux, et comme tu dis, c'est deux choses qui peuvent tout à fait aller ensemble. Et nous, il faut qu'on trouve ça, à la fois une certaine liberté dans le jeu et une spontanéité enfantine. Après, elle n'est pas créée ponctuellement. C'est vrai qu'il y a un travail quand même de fond pour chaque personnage, pour être au plus près du texte, de l'émotion. Maintenant, c'est vrai que ces personnages, ils n'ont pas une histoire au-delà du moment où ils apparaissent. Donc il faut trouver une espèce de dimension et de profondeur, pour le coup, assez ponctuelle.
Ce que j'aime bien, c'est que voilà, on est parti de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, qui est un grand classique, qui est très connu, qui est difficile aussi musicalement. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'on oublie complètement qu'on est dans une œuvre lyrique avec le poids des traditions. Alors on respecte bien sûr la partition, on a travaillé pour ça. Mais une fois que la partition est maîtrisée, c'est génial d'avoir l'impression que c'est une grande improvisation, beaucoup d'amusement, d'enfance, de jeu. Et ça, je trouve qu'on a réussi à créer ça ensemble, à oublier qu'on était dans une partition très difficile et juste à s'amuser sur scène, à créer chez le spectateur de la surprise, de l'intérêt. En fait, pour moi, la beauté, c'est très important et c'est ce qu'on cherche en chant lyrique, on cherche à développer notre voix. Mais la beauté en soi, n'est pas, en tout cas à mon sens, le but, n'est pas l'intérêt de l'art. C'est quand même plus intéressant si on arrive à un peu transcender cette beauté et trouver autre chose que juste « ah, c'est beau ». Et du coup, un public qui va rester à l'extérieur de cette beauté parce qu'il n'en comprend pas les codes, qui va pouvoir trouver ça beau, mais par ses propres, aussi par sa propre sensibilité.
En fait, si elle bouge, je ne bouge pas.
Si, si, justement, en fait, j'allais te dire, si tu bouges un peu comme ça, t'as un peu le corps qui part comme ça, et c'est, tu peux bouger, t'as toute cette espèce de latéralité, okay, tout en restant sur les deux mêmes pieds, les deux mêmes ancrages au niveau des pieds. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux genre vraiment, genre juste, ça fait un peu plus automatique.
Ça marche.
Et tes bras, tu peux les laisser dans le corps. T'auras tes gerbes de fleurs là.
Ok. On le refait?
Ouais. Et du coup, n'oubliez pas. Alors, pour regarder l'enfant, tournez la tête juste. Céleste, toi, c'est pas pratique, mais si
bah,
tu peux, genre.
Juste, ça fait un peu mal.
Bah, tourne juste un peu, juste. T'es pas obligé de la regarder avec tes yeux, mais genre, tourne un peu la tête, on comprend que tu la vises. Voilà. Mm-hmm. Et Ambroise, pareil, regarde là. Et Juliette aussi, tu peux vraiment tourner la tête.
Mm-hmm.
Et après, bah non, tu vas pas regarder. Non, mais tout de suite. Dès que vous chantez, il faut que ce soit genre ma blessure.
Ok.
Étant donné que moi elle est dans mon axe, est-ce que je fais un truc genre comme ça?
Tu changes de.
Tu peux changer de tête, oui, voilà. Change tes yeux. Montre-leur, c'est pas mal.
Là, il manque du monde. Donc, il y a Alice Rose qui va venir un peu plus tard, qui est dramaturge sur ce projet. Donc, avec Alice, on travaille ensemble depuis des années maintenant. On a monté plusieurs spectacles ensemble en duo, donc mise en scène et dramaturgie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Moi, dans le travail de la mise en scène, je pars souvent d'un instinct et j'ai souvent des images qui me viennent en tête à partir d'un instinct. Et Alice, c'est le cerveau, dans le sens où bien souvent, donc on se voit. D'abord, moi, je réfléchis, ensuite, on se voit. Je lui dis, voilà, moi, j'ai pensé ça, ça, ça. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? C'est curieux. Et elle, souvent, elle m'apporte la réponse. Et souvent, elle valide mon instinct, ce qui est plutôt chouette. Par exemple, sur cette œuvre, je me suis dit, toute la seconde partie de l'opéra se passe dans un jardin. Et j'avais en tête des automates. Et donc Alice m'apprend quelques semaines plus tard qu'en fait Ravel était passionné d'automates et que son père construisait des automates et que en fait c'était un vrai sujet de réflexion qui avait déjà été traité par des musicologues. Et moi j'étais là genre « what ?» Ça sort d'où ? Mais c'est chouette. Disons que c'est important pour moi de travailler avec quelqu'un. Je trouve qu'un metteur en scène c'est avant tout quelqu'un qui sait travailler en équipe, non pas déléguer mais intelligemment répartir. Et c'est aussi beaucoup de diplomatie, mais c'est, on n'est pas fort tout seul. On est fort en équipe.
Il faut que ce soit genre, c'est dur. Tu peux. Non, moi je préférais que vous fassiez tous à la fin du chant parce que ça marche bien. Parce qu'en fait, comme lui, il peut chanter et il remet.
Mais le chant.
Tu le fais
sur le
premier accord. Ah bah.
Méchant.
C'est le premier.
Comme ça, les temps. Non, c'était pas ça.
C'est le premier.
C'est pas ce qu'on a fait. Surtout qu'il y a. Est-ce qu'on fait exactement en rythme là, à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a un petit flottement?
Non, c'est pas du tout sur le premier accord.
J'entends
des abaches.
Oh
méchant. Le chant est deux fois. Ça fait oh méchant. 2, 3, 4, 5. Sur la croche de la première mesure, c'est une mesure à 3.
Ok. Temps.
Il remplit toute la mesure et sur le premier temps, hop,
on a 1, 2, claque.
1, 2, 3, et
4. 1, 2,
3, claque.
La question du piano, pour nous, tout simplement, on a aussi conscience des réalités du métier en ce moment et on sait que moins l'effectif est conséquent, plus on a de chances de pouvoir jouer le spectacle. Nous, on a vraiment envie de tourner ça comme un spectacle de poche et avec cette équipe. Et en fait, c'est pas plus mal de pas avoir 50 interlocuteurs. On est très bien avec Héloïse. Dans les gens qui ne sont pas là, il y a aussi Aline et Claire qui sont nos deux scénographes qui ont travaillé sur le projet. Et elles, dans leur cahier des charges dès le début, quand on a parlé avec elles la première fois, on leur a parlé d'une structure lumineuse. Et nous, dans le cahier des charges, il fallait que ce soit facilement transportable et puis que ça puisse jouer partout, y compris en extérieur. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir le jouer dans un gymnase, de pouvoir le jouer dans un jardin, absolument partout. Et c'est mission accomplie puisqu'on tout rentre dans une voiture et on peut partir comme ça, zou, on joue, on monte. C'est parti quoi.
Moi, j'aime tous les moments qui sont un peu... La princesse, c'est quand même très très beau. Il y a une scène avec des écureuils, avec l'écureuil qui est magnifique par la musique. Et sinon, il y a la scène de fin, le final, il est sublime.
C'était Dans une chambre d'enfant. Avec les voix de Max Latargé, Pauline Joly, Camille Chopin, Ambroise Divaré, Céleste Ingrand, Juliette Noyetas, Antonine Vernotte et tous les artistes de la compagnie Ginette. Un reportage de Suzanne Cinca, produit pour Radio Campus Paris.
Médoc. Les grands crus de la création documentaire de Radio Campus Paris. Campus Paris. Un mercredi sur deux à 18h sur le 93.9 FM.